Bonjour, c'est Harry. Dans ce rendez-vous hebdomadaire, ouvrons ensemble une parenthèse philosophique pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, nous allons parler de la guerre et de la paix. Sujet lourd, sujet vaste, sujet malheureusement éternel. Mais pourquoi la guerre? S'interroge Frédéric Gros, soulignant la simplicité presque naïve de la question, qui pourtant renvoie à une interrogation existentielle aussi profonde que celle sur la mort ou la violence. La philosophie, dit-il, est précisément cette discipline capable d'affronter ces questions d'enfants, ces questions gigantesques que les adultes ont appris à esquiver. Selon Hobbes, dans son célèbre Léviathan, trois passions humaines fondamentales expliquent le déclenchement de la guerre: la cupidité, la peur et la gloire. Ces passions, en apparence individuelles, glissent facilement vers une dimension collective et politique. Rousseau complète cette perspective en affirmant que la guerre est une relation d'État à État, révélatrice de leur identité même. Ce passage de l'individuel au collectif rend la guerre à la fois inévitable et structurante jusqu'à devenir constitutive des États eux-mêmes. Mais au-delà de ces passions, Aristote introduit une autre dimension, celle de la justice et de la colère face à l'injustice subie. Ainsi, la guerre serait parfois le moyen de rétablir un équilibre rompu, à défaut d'une justice internationale capable de régler pacifiquement les conflits. Dans l'Antiquité, Héraclite affirmait: Polémos est le père de toute chose. Rappelons que Polémos, c'est la guerre. Pour lui, la guerre était un moteur de changement, capable de révéler la véritable nature des êtres. Homère, quant à lui, voyait la guerre comme un mal nécessaire, dramatique mais indispensable à la définition du héros et de son destin. Sun Tzu, dans l'art de la guerre, préfère une approche plus subtile: gagner sans combattre, utilisant la guerre comme un moyen ultime de préserver la paix, soulignant que jamais une guerre prolongée ne profita à aucun pays. De même, Clausewitz célèbre la guerre comme la continuation de la politique par d'autres moyens, mettant en lumière sa rationalité, mais aussi son potentiel de violence extrême. Cette fascination ambivalente pour la guerre, Clara de Giovanni la décrit parfaitement à travers une anecdote familiale. La paix nous ennuie presque, nous déçoit, tandis que la guerre fascine, nourrie par une sorte de jubilation secrète que le philosophe Alain dénonçait déjà dans Mars ou la guerre jugée. Roger Caillois, lui, relève une évolution préoccupante. Les démocraties ont paradoxalement démocratisé la guerre elle-même, la rendant totale, anonyme et destructrice à une échelle jamais vue auparavant. René Girard y ajoute une dimension mimétique. Les peuples en guerre finissent par se ressembler tragiquement, entraînés dans une escalade inévitable vers la violence absolue. Carl Schmitt pousse la réflexion encore plus loin, en affirmant que la politique repose fondamentalement sur la distinction entre amis et ennemis. Selon lui, la guerre serait une conséquence presque inévitable de cette polarité intrinsèque à l'existence politique. À l'inverse, Kant rêve d'une paix perpétuelle, considérant la guerre comme un phénomène que la raison humaine doit absolument chercher à transcender. Face à ces constats multiples, Michael Walzer propose la notion complexe de guerre juste, fondée sur le réalisme moral. Si la guerre est parfois inévitable, elle doit être alors strictement limitée, proportionnée, afin de demeurer moralement acceptable. Mais Alexis Filonenko nuance ce réalisme en exposant l'opposition entre une conception rationaliste de la guerre, comme chez Hegel, et une vision fataliste et absurde, telle qu'exprimée par Tolstoï. Pour Filonenko, la guerre reste fondamentalement insensée, révélant surtout l'irresponsabilité profonde des humains face aux décisions extrêmes. Cependant, pour comprendre pleinement la guerre, il est indispensable de réfléchir aussi à la paix. Kant, notamment, dans son projet de paix perpétuelle, nous enseigne que la paix n'est pas simplement une absence de guerre, mais qu'elle doit être activement construite sur la base du droit international, de constitutions républicaines et d'une coopération pacifique entre les peuples. De même, Bertrand Russell, farouche pacifiste, considère la paix comme un vecteur essentiel du progrès humain et de la démocratie. Le pacifisme devient alors non seulement une position sociale éthique, mais un véritable combat politique, une opposition à la guerre au nom du progrès social et humain. Enfin, Raymond Aron, tout en restant réaliste, souligne que la paix juste doit être fondée sur un équilibre instable entre nations souveraine. Il distingue ainsi la paix d'équilibre de la paix hégémonique, considérant que seule une paix qui reconnaît et respecte les différences internationales et culturelles peut véritablement perdurer. Peut-être que le rôle ultime de la philosophie est précisément là, non pas fournir des réponses définitives, mais de maintenir éveillée notre conscience critique face aux réalités les plus sombres, tout en nous incitant à cultiver l'espoir raisonnable d'une paix juste et durable. Car au fond, si la guerre semble si naturelle aux sociétés humaines, l'appel est tout autant à notre humanité profonde. Elle est plus qu'une trêve, plus qu'un silence entre deux détonations. Elle est un effort de raison, une construction collective, un pari renouvelé sur notre capacité à vivre ensemble. La paix n'est pas donnée, elle est œuvre. Et comme toute œuvre, elle exige du temps, de la volonté, et une foi persévérante dans les ressources de la parole, de la justice et du droit. C'est peut-être là, dans cette tension vers une paix toujours imparfaite mais toujours désirable, que réside la grandeur de l'humanité. Car penser la paix, c'est penser un monde où l'on préfère l'écoute à la domination, la reconnaissance à l'effacement, la coopération à la conquête. C'est rêver d'un monde où les enfants ne grandissent pas dans l'écho des sirènes et des bombes, mais dans celui des mots partagés, des débats féconds, des engagements réciproques. La paix suppose de croire que l'humanité est capable de se transformer, que nos passions les plus violentes peuvent être domestiquées par la raison et adoucies par la culture. Elle appelle un travail patient de diplomatie, de pédagogie et de solidarité. Elle n'est jamais acquise une fois pour toutes, mais toujours à recommencer, toujours à réinventer. C'est peut-être cela son secret. La paix n'est pas un état figé, mais un mouvement, un chemin que nous avons la responsabilité de tracer, génération après génération. Ainsi, parler de paix, ce n'est pas céder à une naïveté douceâtre, c'est affirmer avec force que l'humanité n'est pas condamnée à répéter indéfiniment ses erreurs. C'est rappeler que les institutions peuvent être corrigées, que les peuples peuvent dialoguer, que les blessures de l'histoire peuvent cicatriser si nous choisissons la justice plutôt que la vengeance, la mémoire plutôt que l'oubli, l'ouverture plutôt que la fermeture. Et ainsi se referme notre parenthèse philosophique. À bientôt pour de nouvelles pensées. C'était Harry sur Radio Prévert.